Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Lacroix, qui est politologue, professeur à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, chercheur au CERI, Centre d'études et de recherche internationales à Paris. Après avoir été post-doctorant à l'université de Stanford et chercheur invité au CEDEJ au Caire. Stéphane Lacroix a soutenu sa thèse en sciences politiques en 2007 à Sciences Po Paris, après avoir obtenu deux maîtrises, l'une en langue et civilisation arabe à l'INALCO et l'autre en mathématiques à Paris 4. Il a obtenu en 2008 le prix de thèse de l'Association française de sciences sociales des religions pour Les champs de la discorde, une sociologie politique de l'islamisme en Arabie saoudite, 1954-2005, et le prix Foreign Policy l'an dernier pour son ouvrage Awakening Islam, The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia, paru aux presses universitaires de Harvard. En plus des ouvrages précédemment cités, Stéphane a rédigé de nombreux articles et ouvrages, dont Les islamismes saoudiens, une insurrection manquée, paru au PUF en 2010. Donc vous l'aurez compris, Stéphane Lacroix est un spécialiste de l'islamisme dans le monde arabe. Et il nous parlera ce soir d'un sujet ô combien d'actualité, qui est celui des frères musulmans égyptiens, des origines au défi du pouvoir. Donc Stéphane, tu as à peu près une heure, et puis après on aura une discussion avec la salle.
Merci beaucoup Nathalie, merci à l'ISM pour l'invitation. Alors je vais vous parler des frères musulmans égyptiens, ce n'est pas mon sujet de prédilection habituel, je travaille sur les salafistes en ce moment, sur lesquels je fais un livre. Donc je sors un peu de mon sujet habituel, mais enfin, évidemment les deux sujets sont connectés. Je parlerai un peu des salafistes aussi ici, puis on pourra revenir peut-être dessus dans les questions si vous voulez, parce que c'est sur ça que je travaille plus précisément. Alors, bon, les frères musulmans, c'est un mouvement qui existe depuis plus de 8 décennies, qui a été fondé en Égypte en 1928, qui est au départ une association... En arabe, une gamaa, c'est pas une gamaïa, c'est une gamaa, alors un groupe, une association. La traduction du terme est déjà en elle-même intéressante, parce que justement, elle donne une idée de ce qu'est cette structure, qu'on va traduire aussi quelquefois par confrérie. Donc, elle est créée en 1928 par un instituteur qui s'appelle Hassan al-Banna, et qui crée l'association dans la ville d'Ismaïlia. Donc d'ailleurs pour faire un pari historique, c'est intéressant de voir qu'Ismaïlia aujourd'hui est une des villes qui est en pointe dans la contestation aux frères sur le long du canal de Suez, alors même que c'était la ville où l'association s'est créée il y a 85 ans. Et donc Hassan al-Banna raconte dans ses mémoires comment lui et quelques autres, ils étaient 6, ils regardaient passer les bateaux anglais qui traversaient par le canal de Suez, ils se sont dit l'Égypte est humiliée, l'Égypte était évidemment sous domination anglaise à l'époque, et donc il faut réagir, il faut s'organiser, et il faut le faire évidemment au nom des principes de l'islam, c'est ça qui va être un peu sa marque de fabrique, et créer cette association des frères musulmans. Alors, cette association, donc j'ai dit, elle s'appelle Gamaa, groupe, association, confrérie, parce qu'elle adopte un mode de gouvernance particulier qui s'inspire en fait du mode de gouvernance des confréries soufis. Hassan al-Banna, dans sa jeunesse, est un soufi, et il va reprendre ce mode d'organisation. Donc on a un guide à la tête de l'organisation qui reçoit l'allégeance, la baya en arabe, comme dans les confréries soufis de l'ensemble des membres de l'association. Et puis ensuite, avec une structure pyramidale, donc ce guide qui a une autorité spirituelle tout autant qu'une autorité, j'ai envie de dire, organisationnelle, qui est le murshid en arabe. Et puis ensuite, une structure pyramidale avec un... pour le coup, des institutions plus classiques, un bureau de guidance d'une vingtaine de membres donc qui assiste le guide, et puis ensuite un majlis al-shura, un comité consultatif de près de 200 membres, et puis ensuite, voilà, une structure qui continue jusqu'aux membres. Et les membres eux-mêmes, en fait, il y a différents grades dans l'Association des frères musulmans en fonction de l'ancienneté, et ils sont organisés en cellules, ce qu'on appelle en arabe des osra. Donc c'est une structure, voilà, pyramidale, avec donc différents organes représentatifs, des cellules à la base, et puis ce guide nommé à vie, le premier, évidemment, est Hassan al-Banna, qui trône à la tête de l'organisation. Alors, par ailleurs, on a donc à la fois l'organisation de confréries soufis, mais aussi des mécanismes plus formels d'élection, donc dans les différents organes. Alors, même si, en fait, c'est souvent formelle, c'est-à-dire que l'élection se fait aussi par ce qu'on appelle les tazkiya en arabe, c'est-à-dire par recommandation. C'est-à-dire que telle ou telle personne qui est soutenue par le bureau de guidance ou par le guide va l'emporter dans les élections parce qu'on va faire passer la consigne qu'il faut voter pour telle ou telle. Donc ça va être d'ailleurs l'une des critiques permanentes des réformistes au sein de la confrérie, on va parler d'eux un peu plus tard, justement qu'il n'y a pas de transparence dans ces élections internes. Mais dès le départ, on a malgré tout l'idée d'un principe d'élection. Sauf pour le, alors pour le guide, lui, il est choisi à sa mort, on choisit un nouveau guide au sein du bureau de guidance. Mais il est en théorie à la tête de la confrérie à vie. Donc voilà, une double logique à la fois de loyauté au guide, qui a une autorité à la fois, organisationnelle et spirituelle, et puis en même temps des mécanismes plus formels qu'on va retrouver dans d'autres associations. Alors pour ce qui est de la doctrine de l'association, elle s'inscrit dans la lignée du réformisme musulman, mais avec une lecture conservatrice de ce qu'est le réformisme musulman. Hassan al-Banna, c'est un élève de Rachid Reda, qui était lui-même un élève de Mohamed Abdou. Donc on a une filiation qui remonte à Mohamed Abdou, mais là encore avec une lecture plus conservatrice. Ce qui était la base de l'idéologie du réformisme musulman et de Mohamed Abdou, c'était que le déclin du monde musulman était le résultat du divorce entre la société des musulmans et la réalité de l'islam. Que donc il fallait revenir à l'islam des origines, le vrai islam, avec lequel donc la société s'était divorcée, et donc en particulier avec cette idée que l'islam est une religion totale. Hein, les frères musulmans parlent toujours dans le concept de shumuli atel islam. Shumuli, ça veut dire total, qui couvre l'ensemble des domaines de l'existence. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver déjà dans la lignée du réformisme musulman. Cette idée qu'en particulier, le politique est soumis à l'islam. L'islam n'est pas une religion qui ne s'intéresse qu'aux questions de dogmes ou de pratiques religieuses. C'est une religion qui couvre tous les domaines de la vie et de l'existence, et y compris le politique. Et donc, en particulier, on va voir chez les réformistes musulmans et chez les frères musulmans aussi, toujours cette idée que l'islam a été christianisé, c'est-à-dire qu'en fait, l'influence de l'Occident et à imposer à l'islam une logique qui lui est étrangère, qui est celle de la séparation du politique et du religieux. Or, pour la plupart des réformistes musulmans et Hassan al-Banna, justement, ces deux logiques, elles sont pas séparables. Il n'y a pas en islam de séparation. Et donc voilà, avec cette logique de retour donc à l'islam des origines, le vrai, celui qui couvrait l'ensemble des domaines de l'existence et donc le politique, et donc cette logique aussi de retour au fondement. C'est pour ça que les réformistes musulmans utiliseront quelquefois le terme de salafi pour se décrire. Salafi, salaf, donc c'est les pieux ancêtres. Salaf, ça veut dire les ancêtres, c'est-à-dire les premiers musulmans. Et donc, quand on dit qu'on est salafi, ça veut dire qu'on prétend appliquer l'islam tel que l'appliquaient les premiers musulmans, le prophète et ses compagnons, et puis ceux qui les ont suivis. Alors, le terme de salafi, ensuite, il sera employé dans un autre contexte. On va y revenir, en fait. Les premiers réformistes musulmans et les premiers frères musulmans s'appellent salafi, et puis ensuite il va y avoir une sorte d'OPA sur le terme qui va être fait par un autre courant religieux qui naît en Arabie Saoudite, car qu'aujourd'hui les frères musulmans souvent l'utilisent plus. D'une certaine manière, ce terme, il est positif, il veut dire fidèle aux premiers musulmans. D'une certaine manière, tout mouvement fondamentaliste dans l'islam veut être fidèle aux premiers musulmans, ce sont pour eux les meilleurs. Et donc du coup, on verra que ce terme, il est appliqué dans un autre contexte. Mais chez les frères musulmans, on a clairement, dès le départ, cette logique de retour à ce qui se veut être les fondements de l'islam, et à l'islam tel qu'il était pratiqué idéalement pendant l'âge d'or du premier siècle. Alors, donc en termes politiques, j'ai dit ça implique qu'il n'y a pas de distinction entre le politique et le religieux, et qu'il existe un mode de gouvernance proprement islamique. Et donc, il faut revenir à ce mode de gouvernance proprement islamique. Alors, ce qui va distinguer les premiers réformistes musulmans, hein, quand on voit Mohamed Abdou, qui vit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, je crois qu'il y a peut-être une conférence où on en a parlé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur les réformismes musulmans. Mohamed Abdou, il est en même temps à la fois un fondamentaliste et un moderniste. Mohamed Abdou, il dit il faut réconcilier l'islam à la modernité, et pour le réconcilier, il faut revenir au fondement pour relire les textes fondateurs à la lumière de la modernité. Avec un usage affirmé de la raison. Ce que va faire Hassan al-Banna et ce que va faire en fait Rachid Reda, qui est le lien entre Mohamed Abdou et Hassan al-Banna, c'est de faire une lecture plus conservatrice, c'est-à-dire on revient au fondement, Mais on réconcilie d'une certaine manière aussi l'islam et la modernité, mais ça n'implique pas d'interprétation particulièrement moderniste de l'islam. On se limite le plus possible à la lettre du texte, parce que la raison est perçue comme étant quand même toujours source de déviance. Donc voilà, donc on a eu au départ finalement un mouvement qui s'inscrit dans la lignée du réformisme musulman, mais qui est plus conservateur, qui n'a pas la dimension moderniste qu'avait le mouvement au départ. Et c'est un peu la marque de fabrique de Hassan al-Banna. En particulier, donc ce qui va définir le projet politique des frères musulmans quand le mouvement est créé, c'est ce concept d'État islamique. La grande demande, le message principal finalement des frères musulmans, c'est qu'il faut créer un État islamique qui est la solution aux problèmes de l'époque. Alors, ce concept, il est intéressant d'État islamique parce qu'on va retrouver justement tous ces éléments. En arabe, ça se dit Dawla Islamia. C'est-à-dire que Dawla, c'est un terme qui remonte au XIXe siècle, qui a été introduit en arabe au XIXe siècle pour traduire le concept européen d'État, tel que les réformistes musulmans le lisent dans les textes qui sont importés d'Europe, dans toute la théorie politique européenne. Et donc, quand les islamistes disent « Dawla islamia », d'une certaine manière, ils font leur un concept qui est un concept fondamentalement européen, qui est un concept exogène. C'est ce concept d'État qui n'existait pas par le passé. Le politique en islam, c'est le califat, c'est pas l'État. Il y a une structure politique qui existe depuis le prophète, ou depuis la mort du prophète, qui s'appelle le califat. Donc, c'est étonnant de devoir utiliser un autre terme, qui est un terme, là encore, qui a une origine essentiellement exogène. Mais cet État, donc, qui finalement désigne aussi les États-nations tels qu'ils ont été créés après, par la colonisation, sous la colonisation et après la colonisation, donc finalement, on s'approprie une réalité qui est celle de, là encore, l'État-nation importé, mais on ajoute le terme islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, bah oui, on est prêt à adopter d'une certaine manière la modernité politique occidentale, la norme politique occidentale, à condition de l'islamiser. Et ça va être en fait toute la question de ce qu'on va essayer de faire les frères musulmans. Hein. C'est ce débat finalement que les réformistes musulmans ont ouvert, qui est celui de la réconciliation de l'islam et la modernité, qui va donner en fait naissance à différents courants. Certains vont dire qu'il faut moderniser l'islam, et ça va être plutôt toute une autre filiation dont je ne parlerai pas ici, mais de tout ce qu'on appellera le modernisme islamique. Et puis la filiation plus conservatrice des frères musulmans, qui vont dire dans cette équation entre l'islam et la modernité, certes on peut adopter la modernité, mais à condition de l'islamiser, donc il faut islamiser la modernité. Et ça va être la ligne des frères musulmans, et cette ligne on la retrouve dans ce concept d'État islamique, qui est donc une islamisation d'une norme politique occidentale importée. Alors, dès qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose, parce que justement, Hassan al-Banna lui-même ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire que en fait, ce concept d'État islamique, il est un slogan qui va, tout au long du XXe siècle, mobiliser. On va voir des gens se mobiliser, manifester, s'organiser sous le slogan de l'État islamique, sans jamais, en fait, que dans la théorie politique islamiste, on explique vraiment ce que c'est que l'État islamique. Et Hassan al-Banna, en fait, on dit très peu sur l'État islamique. Et si on regarde, en fait, l'essentiel du débat au sein de la mouvance des frères musulmans jusqu'au moins aux années 80, à quelques exceptions près, le débat, il concerne surtout les moyens pour parvenir à l'État islamique. Il concerne très peu ce que c'est réellement que cet État islamique. Et c'est ce qui pose aussi tout le problème aujourd'hui de savoir ce que les frères musulmans ont comme projet, parce que ce projet, il a été très peu discuté. Il y a d'une certaine manière une évidence de l'État islamique. Et on a chez Hassan al-Banna et chez la plupart des idéologues de la mouvance, cette idée que finalement, une fois qu'on aura construit l'État islamique, alors que c'est l'État islamique, ils vont dire, c'est l'État qui applique la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu. Et que finalement, il y a une évidence dans ce que va être cet État, puisque, là encore, douter même que cet État est une évidence, ce serait presque blasphématoire. Donc on discute très peu de ce qu'est la forme réelle de l'État islamique, dans toute la théorie politique de la mouvance des frères musulmans et autres. Malgré tout, c'est un slogan mobilisateur, et on l'a dit, un slogan qui va avoir beaucoup de succès tout au long du XXe siècle. Hein. L'organisation des frères musulmans, elle se crée en 1928, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a déjà 1 million de membres. Donc c'est une organisation qui est extrêmement puissante. Aujourd'hui, elle en a probablement... Alors, il y a débat, parce qu'il y a différents grades dans l'organisation des frères musulmans, si on prend les membres qui sont membres à titre complet ou les membres qui sont à des degrés inférieurs, mais on aurait entre 2 et 3 millions de membres en Égypte. C'est quand même donc un mouvement qui est extrêmement important, avec une base extrêmement forte et organisée. il y a deux logiques qu'on va retrouver chez Hassan al-Banna dès le départ dans la logique d'action. Maintenant qu'on a dit, donc voilà, on a un mouvement qui s'inscrit dans une lignée particulière, une lignée intellectuelle particulière, avec un message qui est ce message de l'État islamique, là encore finalement peu expliqué, mais qui est un slogan mobilisateur. Et quelle est la logique d'action? Eh bien, chez Hassan al-Banna, on va trouver une double logique. D'abord, il y a une logique d'action par le bas. Il faut réformer la société. Et cette société, cette réforme de la société, elle doit commencer, donc c'est ce qu'explique Hassan al-Banna, par la réforme de l'individu. Et puis, la réforme de l'individu permettra la réforme de la famille. Et puis, la réforme de la famille permettra la réforme de la société. Et la réforme de la société permettra la réforme de l'État. Donc, on a d'un côté une logique de réforme par le bas. Et en fait, cette réforme par le bas, elle correspond à la logique de construction de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, dont les frères musulmans forment, idéalement dès leur plus jeune âge, des individus qui adhèrent à cet islam pur et authentique. Et puis ces individus, ils sont rassemblés dans des cellules qui, de manière intéressante, s'appellent en arabe usra. L'usra, c'est la famille. Donc les cellules du mouvement s'appellent famille. Et puis ces différentes cellules, eh bien, elles constituent cette société réformée qu'est l'organisation des frères musulmans. Et donc on a une idée de cette purification de la société par le bas à travers ce qui est finalement la construction d'une contre-société. Et c'est ce que les frères musulmans sont sans vraiment le dire, c'est-à-dire ce qu'ils ont pour ambition de construire. Et donc, il y a toujours une ambiguïté dans le monde pour savoir si vraiment ils sont cette contre-société réformée qui est l'ambition de cette réforme par le bas. Et donc, c'est ainsi que se construit la confrérie à partir de donc, l'individu, la famille, l'usra, la cellule, etc. Et donc, on a une idée, évidemment, dès le départ, d'une contre-société qui se construit. Donc, c'est à la fois un mouvement et une contre-société qui se veut, d'une certaine manière, en rupture avec la société existante. Et dans le même temps, on a Hassan al-Banna qui prône aussi une participation par le haut. Donc, on a à la fois une logique d'islamisation par le bas, avec la construction de l'organisation et son mode d'organisation, et puis une logique de participation et de ce qu'on pourrait appeler d'islamisation par le haut, puisque Hassan al-Banna prône la participation sociale et politique. Et dès les années 30, en fait, donc l'organisation, elle fonctionne aussi comme n'importe quelle organisation, une organisation comme les autres, qui a des activités sociales, culturelles, donc qui a une, d'une certaine manière une volonté d'avoir un impact au-delà même de ses cadres, hein, qui cherche à étendre ou faire connaître son message bien au-delà des structures fermées de l'organisation. Et donc c'est ce terme que les frères musulmans traduisent par da'wa, la prédication. Ils vont utiliser le terme islamique de da'wa. Mais leur prédication, elle n'est pas seulement religieuse, elle est sociale et politique et tout en même temps. C'est pas seulement un appel à la religion, parce que, là encore, l'islam, il est compris comme étant quelque chose qui va bien au-delà du simple religieux. Et en même temps, une participation politique. Et dès les années 30, les frères musulmans participent aux élections. Ils vont, dès le départ, chercher donc à obtenir des sièges au Parlement. Il faut rappeler que l'Égypte des années 30, c'est une monarchie constitutionnelle, avec donc le Khédive, qui est le monarque, et puis un parlement élu, tout ça sous domination anglaise. L'Égypte est indépendante en théorie depuis 1922. En fait, les Anglais ont quitté l'Égypte en posant un certain nombre de conditions à l'indépendance de l'Égypte, en particulier le contrôle du canal de Suez, en particulier le maintien des bases militaires. Et même si ça n'est pas dit formellement, en fait, ils continuent à garder en grande partie le contrôle du politique en Égypte. Ils continuent d'influer autant qu'ils peuvent sur les équilibres politiques en Égypte. Donc les Anglais, ils ne sont pas officiellement là, mais ils sont partout. Et malgré tout, on a effectivement une forme de monarchie constitutionnelle représentative à laquelle donc les frères musulmans vont participer. Donc cette question qu'on pose aujourd'hui, les islamistes participent aux élections depuis 8 décennies dans le monde arabe. Ce n'est pas une nouveauté que les islamistes soient dans le jeu électoral. Et cette participation au jeu politique, elle va les obliger un petit peu à clarifier leur message politique. Je l'ai dit, le concept d'État islamique, il est dès le départ un concept ambigu, mal défini. Enfin bon, la participation au jeu politique va les obliger quelquefois à en dire un peu plus sur ce qu'ils considèrent comme étant islamique en politique et ne l'étant pas. Et Hassan al-Banna, dès les années 30, va dire le système constitutionnel, parlementaire, est ce qui s'approche le plus du système islamique. Donc là aussi, la reconnaissance ou l'acceptation par les frères musulmans du système parlementaire et du système constitutionnel, il est ancien, en fait. Dès les années 30, Hassan al-Banna dit qu'il est tout à fait d'accord, il considère que c'est ce qui s'approche le plus. Il ne dira pas que c'est l'État islamique, il dira que c'est ce qui s'en approche le plus, ce qui maintiendra tout de même une ambiguïté. Dans le même temps, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les premières décennies du mouvement, Hassan al-Banna est contre le multipartisme. Il dira qu'il peut y avoir un système parlementaire et constitutionnel, mais il ne faut pas que la société soit divisée en partis, parce qu'il faut que la société soit unie autour d'une même valeur qu'est l'islam. Donc les gens peuvent avoir des divergences d'opinion, mais s'ils commencent à s'organiser en partie autour d'idéologies divergentes, c'est la fitna, la division, le chaos, ça n'est pas bon. Donc il y a des limites, évidemment, à l'acceptation par Hassan al-Banna du jeu constitutionnel, parlementaire, partisan. Hein, et en particulier, la question partisane, elle pose problème au départ. Il acceptera malgré tout de participer, mais il dira qu'il est contre, en théorie, l'existence de partis politiques, parce que là encore, c'est facteur de division. Alors, à partir des années 40, la confrérie des frères musulmans, elle va connaître à deux reprises la tentation de la violence. Première fois, dans les années 40, avec la création de ce qu'on va appeler en arabe « Tanzim al-Khas », l'organisation spéciale, qui est en fait une branche paramilitaire qui se développe au sein de l'organisation. Les frères musulmans sont, il faut le dire, hein, c'est pas du tout les seuls en fait à avoir une branche paramilitaire à l'époque. En fait, c'est l'ensemble des partis politiques égyptiens dans les années 40 se dotent de branches paramilitaires. On est dans un climat général de radicalisation de la vie politique avec un passage presque généralisé à la violence. Et aussi bien le Waft que Jeune Égypte, enfin, c'est un des grands partis de l'époque, se dotent de branches paramilitaires. Les frères musulmans le font aussi. Et ce climat de passage à la violence, il va en fait tourner assez rapidement à une série d'assassinats et de contre-assassinats entre l'organisation spéciale des frères musulmans et les services de sécurité de l'État et de la monarchie égyptienne, qui vont se terminer par l'assassinat d'Hassan al-Banna en 1949, après qu'un certain nombre d'officiels aient été assassinés par des membres de la branche paramilitaire des frères musulmans. Mais... Alors là, il y a tout un débat sur cette période. Hein. Ce débat, il continue aujourd'hui avec cette question fondamentale de savoir si, d'une certaine manière, la violence, elle est dans l'ADN des frères musulmans ou pas. Les frères musulmans disent, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est en partie vrai, ils n'étaient pas du tout les seuls dans les années 40 à utiliser la violence. Tous les autres partis politiques, y compris le très respectable Waft, avaient une branche paramilitaire. Cette branche paramilitaire, elle avait surtout vocation à se défendre, elle n'était pas faite pour attaquer. Donc, eux présentent les assassinats comme la réponse aux assassinats de membres de la confrérie par le pouvoir. Et ils ajoutent qu'on était dans une lutte contre l'occupant anglais, et que donc, effectivement, cette branche paramilitaire, elle avait surtout pour but de se défendre contre l'occupant anglais et de lutter contre la présence anglaise en Égypte. Alors, évidemment, leurs détracteurs vont dire pas du tout, cette branche d'organisation spéciale, elle avait pour but de prendre le pouvoir par la force. Et ça reste un débat historiographique. En fait, il y a des témoignages qui vont dans les deux sens. Moi, je suis pas spécialiste de cette époque, mais à ma connaissance, le débat est pas complètement tranché. Alors, en 1952, c'est la révolution nassérienne. Le comité des officiers libres, hein, dont Nasser est l'un des membres, qui renverse la monarchie égyptienne, et on a un nouveau régime révolutionnaire qui s'installe. Régime qu'en fait les frères musulmans, qui on l'a vu étaient en froid avec la monarchie, vont soutenir au départ. Donc Nasser va bénéficier du soutien des frères musulmans, à tel point que même dans la première année du régime, on instaure de frères musulmans qui vont servir de conseillers au nouveau régime qui s'installe en 52. Donc on a une proximité au début. Et puis, assez rapidement, en fait, on va avoir un divorce entre Nasser et les frères musulmans, en particulier parce que bien Nasser va embrasser l'idéologie nationaliste arabe, qui n'est évidemment pas compatible avec celle des frères, et parce qu'aussi, probablement, Nasser s'aperçoit que les frères musulmans jouissent d'une base sociale extrêmement forte, et donc sont en train de lui faire de l'ombre. Et donc, en 1954, Nasser va décider de réprimer les frères musulmans, il va les déclarer hors la loi, et il va les mettre en prison par milliers, Après, une tentative d'assassinat sur Nasser. Alors là encore, débat dans l'historiographie. Les frères musulmans disent... Alors effectivement, c'est un frère musulman qui a tiré sur Nasser à Alexandrie en 54. Les frères musulmans disent c'était un acte individuel, il n'était pas envoyé par la confrérie. Nasser dit pas du tout, c'était une tentative de la confrérie de renverser le régime nassérien et de prendre le pouvoir. Donc là aussi, débat historiographique. Mais de fait... ça va servir de prétexte à Nasser, et le prétexte est bien trouvé parce qu'en fait il y a des tensions entre l'organisation et Nasser depuis quelques mois. Donc sur le prétexte que les frères ont essayé de l'assassiner, il va les déclarer hors la loi et les jeter en prison. Et commence en 54 toute la période de ce que les frères appellent dans leur historiographie la mihna, ce qu'on peut traduire par l'épreuve ou l'inquisition. Et donc les frères musulmans sont déclarés hors la loi, jetés en prison par milliers. Et ça va marquer... l'émergence d'un courant radical au sein de l'idéologie des frères, qui va apparaître en fait en prison, à partir des écrits d'un idéologue frère qui est emprisonné en 54 et qui s'appelle Saïd Qutb, Q-U-T-B. Et Saïd Qutb, c'est un critique littéraire qui était un écrivain, un critique littéraire qui a rejoint les frères, qui s'est rapproché des frères à partir de la fin des années 40 et qui les a rejoints après la révolution de 52 et qui, en prison, va redéfinir l'idéologie des frères dans un sens plus radical. En particulier, il va expliquer, ce Saïd Qutb, que Hassan al-Banna était dans une logique beaucoup trop tolérante par rapport à l'État impie. Que finalement, Hassan al-Banna, on l'a vu, disait, on peut participer, y compris dans un État qui n'est pas islamique, puisque considérait que l'Égypte des années 30 et 40 sous le Khédive n'était pas un État islamique, Hassan al-Banna, on peut participer aux élections. On peut présenter des candidats, on peut faire partie de la société et du jeu politique qu'on peut essayer de changer par des mécanismes finalement légalistes. Et ce que Hassan al-Banna voulait en participant aux élections, c'était par exemple avoir des représentants qui allaient voter pour l'islamisation des lois, mais sans passer par une logique de révolution. Ce que Saïd Qutb en prison va dire, c'est que il y a incompatibilité totale entre l'État islamique et l'État impie. Il va employer le terme pour parler d'État impie, le terme en arabe de jahiliya. Jahiliya, c'est un terme qui, dans l'historiographie islamique, désigne tout ce qui est avant l'islam. Ça vient de jahal, l'ignorance. C'est l'état d'ignorance qui précède l'islam. Et il va dire cette jahiliya, en fait, elle ne s'est pas arrêtée avec l'arrivée de l'islam, elle a continué à perdurer dans la société islamique. Et tous les états qui existent donc à l'époque où il écrit, dans les années 50, y compris l'état égyptien, sont des états impies, sont des états jahilites, sont des états qui reflètent cette ignorance pré-islamique et contraire à l'islam. Et donc on ne peut pas cohabiter, on ne peut pas coexister avec des états comme ceci, on ne peut pas accepter de travailler en leur sein. La seule solution, c'est de les détruire et de les remplacer par des États islamiques. Et donc, il va dire qu'il n'y a pas compatibilité entre les deux. Donc, il n'y a pas de zone grise. En fait, toute la logique d'Hassan al-Banna, c'est qu'il existe une zone grise dans laquelle on peut travailler. Même si l'État est imparfait, par la participation, on peut l'améliorer. La logique de Qutb, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a incompatibilité totale. Et donc, un État non islamique doit être rejeté en bloc. Et donc, la seule solution, et ben, concrètement, c'est la révolution. Et ce que Qutb va dire, donc il va expliquer, alors il y a toute une théorie qu'il va construire en prison, sur un mode philosophique qui fait que c'est pas vraiment une théorie, je veux dire, militante. Hein, on a beaucoup de mal à voir chez Qutb ce qui relève d'une réflexion philosophique et ce qui relève vraiment d'un programme d'action. Mais il va dire, il y a l'État islamique, il doit se construire sur les ruines de l'État impie. Donc il n'y a pas de cohabitation possible avec un État impie. Et pour que cet État advienne, il faut qu'une nouvelle génération militante qui, à l'image un peu du prophète et de ses compagnons, luttant contre l'État impie à la Mecque avant l'arrivée de l'islam, eh bien, combatte pour faire installer au pouvoir l'islam sans transiger avec l'impiété. Et cette nouvelle génération, il va dire, elle doit agir par ce qu'il appelle le mouvement, al-haraka. Alors là aussi, conflit d'exégèse, est-ce que al-haraka, ça veut dire l'action violente? Et lui, il va dire, on ne peut pas se contenter de prêcher. On ne peut pas se contenter, en arabe, d'el-bayan. On ne peut pas se contenter d'expliquer ce qu'on a à dire. On doit agir. Et il va utiliser le terme de haraka, qui est là aussi très ambigu en arabe. Donc cette nouvelle génération, imprégnée de ce message d'un islam idéalisé, pur, de cet État islamique, dans sa forme la plus pure, eh bien, il doit être porté par cette génération qui agira contre l'État impie pour l'installer. Et alors ce livre, il est écrit dans un style un peu philosophique, littéraire, qui fait qu'en fait tout le débat qui va suivre, c'est est-ce que c'est un programme d'action ou est-ce que c'est un livre de philosophie. Un certain nombre de gens vont le comprendre comme un programme d'action. Mais là encore, quand on le lit, on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Et donc, le livre dans lequel Coates va expliquer sa théorie, il s'appelle Jalons sur la route, Ma'alem fit Tariq, donc Jalons sur la route de l'État islamique. Et là où on voit à quel point le livre il est ambigu et on ne comprend pas si c'est un livre philosophique ou un programme d'action, c'est que même si Coates écrit le livre en prison, le livre est publié à l'extérieur de la prison et il reçoit d'abord l'autorisation des autorités nassériennes. Donc, alors même que les frères sont en prison, le livre est publié et il reçoit l'autorisation des autorités de censure, qui visiblement le lisent et ne comprennent pas bien, ou en tout cas n'y voient pas un livre subversif. Coutpe est finalement libéré en 64, donc après 10 ans de prison, et en 65, il est emprisonné de nouveau, accusé par Nasser de complot contre l'État, d'avoir formé une cellule qui s'apprêtait à renverser l'État par la violence, et en 66, Coutpe est exécuté. Il est pendu, donc il est condamné à mort et est exécuté pour complot contre l'État, et donc il va rester dès lors pour ses partisans un shahid, un martyr. Alors, les frères dès le départ, alors Coutpe va toujours avoir une position un peu particulière chez les frères. Il est issu de leur rang. Les frères, jusqu'à aujourd'hui, quand on leur parle de Coutpe, ils vont dire c'était quand même quelqu'un d'important, c'était quelqu'un, c'est une pensée, c'est quelqu'un de. En même temps, non, la lecture violente qui en a été faite, on s'en dissocie complètement. Coutpe était un philosophe, c'était pas un activiste. Et ils vont en fait même le dire en 69, donc 3 ans après la mort de Coutpe, la confrérie, le guide de la confrérie, va écrire un livre pour dire la logique ou la doctrine de Coutpe telle qu'elle a été comprise comme un appel à la violence ne reflète pas la position de la confrérie. Et ce livre, il s'appelle Prêcheur, pas juge, en arabe Doa la Quda. Et en fait, ce que dit donc le guide s'appelle Hassan al-Hudaybi, il va dire on est là pour prêcher, on n'est pas là pour dire si la société est impie ou elle ne l'est pas. Donc ceux qui ont compris Coutpe comme écrivant que il faut takfiriser la société, en excommunier la société et dire qu'on est les seuls vrais musulmans, et donc parce qu'on est les seuls vrais musulmans, se donner le droit d'utiliser la violence pour agir, eh bien ceux qui ont compris ça ne représentent pas la confrérie. Donc voilà, donc en 69, la confrérie se démarque des lectures violentes qui ont été faites de Coutpe. En même temps, Coutpe va toujours rester quelqu'un qu'on lit dans la confrérie. Donc il y a jusqu'à aujourd'hui, on voit quand on va en Égypte, on voit les librairies des frères musulmans, on a toujours Coutpe qui siège en bonne position. Mais là encore, avec toujours, on va vous dire, c'est pas du tout la lecture qui en a été faite, n'est pas du tout la bonne. Alors, en 70, Nasser meurt et il va être remplacé par Anwar es-Sadat. Anwar es-Sadat va être beaucoup plus favorable aux islamistes que ne l'était Nasser. En fait, Anwar es-Sadat va prendre le contre-pied de tout ce qu'avait fait Nasser. Donc Nasser était socialiste pro-soviétique. Anwar es-Sadat va se rapprocher des islamistes et va mettre en prison les nassériens et va se rapprocher des États-Unis. Donc on a vraiment un changement complet de politique de l'Égypte sous Sadat. Et en particulier, donc, il va laisser sortir tous les islamistes que Sadat a mis en prison, il va les sortir de prison. Et il va permettre que se réorganise dans les années 70 le mouvement islamiste. Alors, ce mouvement islamiste, il va d'abord se réorganiser dans les universités égyptiennes. On a tout un mouvement islamiste et studentin qui se construit dans les années 70, hein, à partir des campus. C'est ce qu'on va appeler les groupes islamiques, les Gamaat Islamia, qui est en fait un mouvement étudiantin, mais qui va en fait remporter les élections étudiantes dans les années 70, qui va montrer le soutien dont il jouit dans les campus. D'une certaine manière, c'est une surprise pour beaucoup. Les campus, jusque-là, étaient plutôt acquis aux idéologies de gauche ou communistes ou socialisantes. Dans les années 70, les islamistes montrent qu'ils ont la majorité dans les campus égyptiens. Et puis ça va permettre aussi un renouveau de la confrérie, puisque donc les membres de la confrérie sont libérés. La confrérie va se réorganiser dans les années 70, et une partie de ces jeunes islamistes des campus vont rejoindre les rangs de la confrérie. Et donc, eh bien, ces troupes qui avaient été un peu décimées pendant la période nassérienne, eh bien, elles vont revenir en nombre. Et donc on a, après les années 70, un renouveau des frères musulmans égyptiens. Alors, en 81, c'est Sadat qui est assassiné par des gens qui se réclament des idées de Saïd Qutb. Puisque, donc, à partir des années 70, les frères vont dire « Rothe, c'est pas nous. Certes, on le lit, mais on ne le comprend pas comme un appel à la violence. » Il y a un certain nombre de mouvements qui vont apparaître en marge des frères qui, eux, font une lecture violente de Rothe, ou comprennent Rothe comme un appel à la révolution. L'un de ces mouvements, c'est la Gamma islamien, et c'est ce mouvement qui va assassiner Sadat en 81. Donc, c'est pas comme on lit quelquefois les frères musulmans qui assassinent Sadat en 81. Ce sont des mouvements plus radicaux qui apparaissent en leur marge, se réclamant des idées de Qutb, avec lesquelles les frères musulmans ont officiellement rompu. Tout ça fait malgré tout que les frères musulmans vont être réprimés. Hein. En 81, tous les islamistes sont réprimés parce qu'il y a une vague de répression qui touche évidemment les islamistes radicaux qui sont responsables de l'assassinat de Sadat, mais tout le mouvement islamiste en général, et de nouveau, les frères musulmans échouent en prison. Ils vont y passer quelques années. Entre-temps, Moubarak est arrivé au pouvoir. Donc Moubarak était le vice-président de Sadat. Et à partir de 1984, Moubarak va permettre de nouveau aux frères musulmans d'exister et de se réorganiser. Alors, avec un statut toujours un peu particulier sous Moubarak, puisque les frères musulmans sont officiellement interdits, mais ils sont tolérés. Donc la confrérie n'a pas le droit d'exister comme confrérie, mais... évidemment, elle a des bureaux, on sait où elle est. De temps en temps, sous Moubarak, on en arrête un certain nombre. Mais il n'y a à aucun moment une volonté de détruire la confrérie. Donc, d'une certaine manière, ils sont maintenus sous pression. Et Moubarak va essayer de maintenir un peu le système qui avait été mis en place par Sadat à la fin de sa présidence. D'un autoritarisme libéralisé, avec un pouvoir dictatorial à sa tête, mais en même temps une apparence démocratique, une façade démocratique. Donc sous Moubarak, comme à la fin de Sadat, on a des élections, avec un parlement donc élu régulièrement, avec des manipulations à la fois du bourrage d'urne et puis des actions en amont pour influer sur le résultat des élections, et donc pour assurer aux partis en place la majorité systématique aux élections. Mais on a malgré tout une façade démocratique qui va permettre aux frères musulmans d'exister et de présenter des candidats, mais ils ne peuvent pas le faire sous le nom des frères musulmans, donc systématiquement ils vont les présenter comme indépendants. Donc ils existent, ils présentent des candidats, pas comme frères musulmans, mais tout le monde sait que c'est eux, évidemment. Et c'est un peu le deal qui est conclu avec Moubarak. Et à la fin des années 80, toujours dans cette logique d'autoritarisme libéralisé, Moubarak va aussi autoriser que se tiennent des élections syndicales, dans les syndicats professionnels. Et là aussi, les frères musulmans vont investir les syndicats professionnels, le syndicat des ingénieurs, le syndicat des avocats, le syndicat des médecins. Et ils vont d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, remporter la majorité dans ces syndicats. Le pouvoir aura beaucoup plus de mal à contrôler le résultat des élections dans les syndicats. Donc autant dans les élections nationales, le pouvoir est capable de maintenir toujours une majorité pour le parti au pouvoir, autant les élections syndicales, les frères musulmans l'emportent à plusieurs reprises à la fin des années 80, au début des années 90. On a différentes phases hein, sous Moubarak avec les frères musulmans. Dans la fin des années 80, début des années 90, donc j'ai dit, on a des victoires en particulier aux élections syndicales qui montrent à quel point les frères musulmans sont puissants, à quel point ils sont bien implantés. Sous Moubarak aussi, ce qui va augmenter leur implantation, ils vont commencer à développer toute une série de services sociaux, par exemple tout le réseau des hôpitaux frères musulmans, qui fonctionnent quelquefois mieux que les hôpitaux de l'État, et qui sont dirigés par des médecins frères musulmans, qui donc construisent un peu un système de santé parallèle, qui, en particulier dans les quartiers populaires, offrent des services que les hôpitaux d'État ne sont pas capables d'offrir. Donc ils vont vraiment essayer de construire aussi, toujours dans cette logique de contre-société parallèle, un système de santé parallèle, par exemple. Donc là encore, l'emporter aux élections syndicales. Et puis, au milieu des années 90, on a une première vague de répression. On a des arrestations en masse. À partir de l'année 2000, de nouveau, on va autoriser les frères musulmans à exister, à travailler et à se présenter aux élections. En 2005, donc on a les élections nationales. Moubarak autorise les frères musulmans à emporter près de 25% des sièges au Parlement. C'est la première fois qu'ils en obtiennent autant. Là encore, c'est le pouvoir qui les y autorise. Hein. Tout est tout est en fait discuté en amont. Je veux dire, le pouvoir décide quasiment de la marge de siège qu'il va donner aux frères. En 2005, il le fait pour deux raisons. C'est parce qu'on a les Américains qui mettent l'Égypte sous pression. On est au lendemain de la guerre contre l'Irak, avec ce slogan de l'administration Bush d'une démocratisation du Moyen-Orient. Et donc, pour le régime Moubarak, c'est un coup double. Il faut d'un côté montrer qu'on est plus ou moins démocratique et que donc l'opposition peut emporter des sièges aux élections. Et aussi dire aux Américains, mais regardez, si on fait des élections démocratiques, regardez, ce sont les islamistes qui l'emportent. Donc en 2005, les frères musulmans emportent 25% des sièges, là aussi parce que c'est le pouvoir qui l'a bien voulu. Et puis le pouvoir va, à partir de 2005, en fait, changer de stratégie. D'abord parce que peut-être les pressions américaines sont moindres à partir de 2005, et aussi parce que finalement, les frères musulmans ont utilisé leur présence au Parlement pour en permanence discuter des orientations de l'État. Je veux dire, il y a vraiment la présence des frères au Parlement leur a donné une capacité tribunicienne qu'ils ont utilisée. Et donc, d'une certaine manière, le pouvoir les a vus comme des fauteurs de troubles. Ce s'est dit finalement, puisqu'il n'y a plus de pression américaine, ce n'est pas la peine de réitérer l'expérience. Et en 2010, deux mois avant la révolution, novembre 2010, on a les élections les plus truquées de toute l'histoire égyptienne. Les frères musulmans obtiennent zéro siège. Le pouvoir, cette fois-ci, fait en sorte que tous les sièges aillent au Parti national démocrate, qui est le parti d'Hosni Moubarak.